Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Coup de théâtre de la Comédie de Colmar, comme tous les lundis matins, sur Radio RDL 103.5. Bonjour Christine et bonjour Francis.
Bonjour Francis, au micro aussi.
Voilà Christine, alors ce matin, pour ce nouveau coup de théâtre, nous parlons de l'hôtel du libre-échange de Georges Feydeau dans une mise en scène de Stanislas Nordet à Mulhouse.
Et
alors
oui.
Pourquoi à Mulhouse alors que c'est la Comédie de Colmar?
Ben oui, puisque pour une fois, la Comédie de Colmar, en partenariat avec la Filature, va emmener ses abonnés voir l'hôtel du libre-échange, donc à la Filature de Mulhouse, le mercredi 11 février à 20h et le jeudi 12 février à 19h. Vous partirez en autobus depuis la Comédie de Colmar. Donc, renseignez-vous à la Comédie de Colmar pour savoir à quelle heure sera le départ.
Oui, c'est un spectacle qui dure quand même 3 heures, un peu plus de 3 heures avec entracte. Mais c'est à Mulhouse parce que pour ce spectacle, il faut une très grande scène. Même si peut-être on peut avoir 13 ou 14, je ne sais pas, acteurs sur scène, c'est peut-être mieux de les voir quand même à la Filature. Alors, Stanislas Nordet, vous le connaissez tous parce que il a été pendant 9 ans le directeur du TNS et vous l'avez vu jouer, vous avez aussi vu ses mises en scène. En particulier, vous l'avez vu jouer assez récemment dans La clôture de l'amour, un texte de Pascal Rambert. De toute façon, il a monté Pascal Rambert, il a monté Wajdi Mouawad et plein d'autres choses pendant ses 9 années au TNS.
Oui, et vous l'avez sûrement vu aussi dans Quartet d'Einar Müller. Donc au moins 2 fois dans les saisons de la Comédie de Colmar ces dernières années. Et Stanislas Nordet donc, a été longtemps directeur du TNS. C'est aussi un formidable pédagogue et le centre de son travail, c'est plutôt le texte contemporain et la découverte effectivement de la littérature contemporaine. Il a, par exemple, travaillé avec Volk Richter, un auteur allemand, avec Christine Angot ces dernières années, avec Claudie Galia.
Louis aussi.
Oui, ou sur Édouard Louis, bien sûr. Et donc là, en fait, il reprend quelque chose qu'il avait déjà monté, contre toute attente peut-être. Il reprend Feydeau puisqu'il avait monté...
Il avait monté en 2005 La puce à l'oreille, spectacle que j'ai vu à l'époque et qu'il reprend du Feydeau tout de suite, 20 ans après, et après être revenu dans sa compagnie pour l'hôtel du libre-échange.
Oui, parce qu'il faut savoir que quand on a terminé son mandat de directeur dans un grand théâtre, bon, on retrouve sa compagnie, et donc l'hôtel du libre-échange est la première œuvre que Stanislas Nordet monte avec cette compagnie. Il a travaillé avec la MC2 de Grenoble, où il a retrouvé son directeur Arnaud Meunier. L'histoire est assez jolie, puisque c'est Nordet qui avait découvert Arnaud Meunier dans un festival off du Festival d'Avignon. Et maintenant que Arnaud Meunier est directeur d'une grande scène, ben voilà qu'il invite son mentor Nordet à venir y jouer du Feydeau.
Alors Feydeau qui a le vent en poupe depuis l'après-guerre, alors que pendant très longtemps il était presque ignoré, nous renvoie d'une manière ou d'une autre au boulevard ou à ce qui s'est appelé le vaudeville, dont nous retenons essentiellement La Biche et Feydeau, mais qui à l'époque était tout le théâtre, il ne faut pas l'oublier, de cette fin du 19e jusqu'au début de la guerre de 14, et encore d'ailleurs dans le théâtre privé, eh bien, le boulevard où il s'agit le plus généralement du mari, de la femme et de l'amant, on sait bien que c'est cette histoire-là, essentiellement la comédie, rire de la comédie de mœurs de la bourgeoisie. Là, évidemment, il s'agit, comme toujours, d'une comédie de mœurs de la bourgeoisie. Alors pourquoi Feydeau, pourquoi lui plus particulièrement, et parce qu'il a inventé, je crois, un théâtre, on y reviendra un peu plus tard, un théâtre du mouvement, un théâtre de la rapidité et puis du rire. Et puis surtout d'un langage qui est absolument incroyable.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que le vaudeville, c'était vraiment le théâtre à succès, ce qui faisait vraiment le succès du théâtre, même si à l'époque aussi il y avait la découverte de la mise en scène avec quelqu'un comme Antoine dans la veine de Zola, ou bien même un théâtre symboliste, par exemple les pièces de Maeterlinck. Mais ce qui faisait vraiment courir le public au théâtre, c'était le vaudeville. Et le mot vaudeville, ça désignait d'abord une petite chanson satirique, et puis c'est devenu effectivement, comme tu le dis, ces pièces autour de l'adultère qui, d'une certaine façon, faisaient rire les bourgeois de leur propre travers, de leur propre hypocrisie, d'autant plus qu'en général, la façade bourgeoise est extrêmement austère et puritaine, alors que par en dessous, les désirs et les pulsions se font jour.
Oui, donc... d'ailleurs, dans le langage, Feydeau ne manque pas ses désirs et ses pulsions de les faire dire, et tout étant sous-entendu, tout étant malentendu, tout
en
est...
Voilà,
alors il s'appelle déjà, donc il s'agit de deux familles, déjà tout est là, il y a déjà des sous-entendus, des malentendus, il y a le couple Pinglé.
Oui.
Et il y a le couple Gaillardin.
Paillardin,
pardon. Justement, pas Gaillardin.
c'est intéressant ton lapsus, Paillardin, parce qu'ils sont Paillard, à la fois Gaillard,
voilà,
Gaillard et Paillard.
Justement, Paillardin, parce que dans le couple Pinglé, alors il s'agit, lui Pinglé est
un entrepreneur,
constructeur, et Paillardin, lui, il est, pas Gaillardin, Paillardin, lui, il est architecte. Donc, ils habitent l'un à côté de l'autre, et
oui.
Voilà, Paillardin n'est guère gaillard, on va dire ça comme ça, avec sa femme, qui se plaint de son manque d'intérêt pour la chose, et par contre, Pinglé, lui, semble assez intéressé par la chose, mais sa femme le toise de haut et ne veut plus rien savoir de lui, voilà. Et donc, il se dit, ça serait pas si mal de retrouver Madame Paillardin, parce que là, les choses pourraient peut-être fonctionner. Et il va donc aussi cash lui proposer sans doute de se retrouver dans un hôtel. Mais il n'y a pas que
ces deux couples
et puis ce couple qui risque de se former, dont on imagine peut-être qu'il se formera, qui est un couple adultère, mais viennent s'agréger à ces gens-là un avocat qui s'appelle Mathieu qui avait hébergé les Pinglé et qui vient passer un moment à Paris.
Il ne vient pas tout seul.
Alors les Pinglé ne voit pas d'un mauvais œil qu'il reste là quelques jours, mais il vient avec quatre de ses filles. Et donc là, ce n'est plus possible. Donc, il faut qu'il aille chercher un hôtel,
oui,
là
alors,
aussi.
Quatre filles, effectivement, qui ont toutes des noms de fleurs, Violette, Marguerite, Pâquerette et Pervenche, ce qui est aussi très rigolo. Et donc, effectivement, que faire de ces quatre filles?
Qui sortent d'ailleurs d'un couvent, c'est une drôle d'histoire.
Voilà. Et donc, là aussi, ils vont devoir aller à l'hôtel. Et vous comprenez déjà que cet hôtel, c'est l'hôtel du titre de la pièce, l'hôtel du libre-échange, le bien nommé bien sûr, parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'entendre dans libre-échange le principe échangiste d'une certaine façon.
C'est un hôtel de passe tout simplement.
Alors c'est un hôtel de passe tout simplement. D'ailleurs je crois que Feydeau, qui d'ailleurs n'a pas écrit la pièce tout seul puisqu'il avait un associé qui s'appelait Desvalières, mais je crois qu'au départ il avait écrit une pièce un peu plus osée encore puisqu'il y avait des personnages de prostituées et qu'il y était question de l'affaire Dreyfus et même du communisme et qu'à l'époque au 19e siècle, il y avait quand même une censure, donc les prostituées ont disparu, mais ça n'empêchera pas effectivement l'hôtel du libre-échange d'être
un hôtel de passe.
Alors,
pour l'instant, vont s'y retrouver d'une part Pinglé avec Marcel, c'est Madame Paillardet, et puis Mathieu avec ses quatre filles, mais il s'avère que Paillardet lui aussi est obligé d'y aller parce que entend ou est amené à y aller parce qu'en tant qu'architecte il paraît que dans cet hôtel il y a une pièce qui est hantée.
Oui, il est une sorte d'expert d'un comité qui doit aller vérifier.
Il est expert d'un comité, donc c'est aussi le mari de Marcel qui va y être. Enfin, il y a là les Paillardet ont un neveu qui s'appelle Maxime, qui est étudiant en philosophie et qui devait être accompagné de la bonne d'épingler, c'est un peu compliqué tout ça, pour aller à ses leçons, mais qui finalement, parce que il est en train de, c'est une scène assez connue, il est en train de lire les passions de l'âme de Descartes, et en lisant les passions de l'âme de Descartes et les grands textes sur l'amour, eh bien Victoire lui explique que c'est bien plus intéressant
de pratiquer,
plutôt que de réfléchir aux passions de l'âme de Descartes. Et du coup, il décide aussi d'y aller dans cet hôtel pour pratiquer un peu ce qui est écrit dans les passions de l'âme de Descartes. C'est assez connu comme scène, cette scène amusante. Et tout ce beau monde va donc se retrouver à l'hôtel du libre-échange dans le deuxième acte, voilà, qui est l'acte fou de la pièce.
Bon, vous comprenez bien que tous ces gens qui sont rassemblés, alors qu'ils ne devraient pas être réunis tous ensemble, ça va donner l'occasion d'incroyables jeux de cache-cache, d'un incroyable jeu de cache-cache. Et il y a, paraît-il, 10 Stanislas Nordet, 197 entrées et sorties.
Rien que dans cet acte-là, oui, parce qu'il y a évidemment des pièces et un couloir. Et les gens vont se croiser ou ne pas se croiser, s'entendre plus ou moins, des portes vont s'ouvrir, se fermer. On parlera peut-être après de la scénographie, mais en tout cas, c'est écrit ainsi, parce qu'il y a une page presque entière de Didascalie pour indiquer comment ce jeu tournant entre le couloir et les portes des chambres doit se mettre en place. Et puis finalement, il va se passer un certain nombre de choses. Vous imaginez bien cette nuit délirante. Et le troisième acte, c'est le retour. Et à la fin, il y aura une descente de police.
Oui, c'est ça. Il y a des contrôles d'identité.
Et tout va se jouer autour de l'identité de tous ces gens, des bourgeois, qui va rencontrer qui. Et puis finalement, dans le troisième acte, c'est le moment un peu pénible où il va falloir
assumer
ce qu'on a fait, qui on a été, peut-être même l'adultère devant la pauvre Angélique qui, elle, voulait voir sa sœur, mais on raconte pas tout. On ne racontera pas toute l'histoire. En tout cas, le dernier acte est moins amusant, c'est sûr.
Et d'ailleurs, Fédo n'aimait pas
trop le dernier acte, parce qu'il faut bien finir cette histoire. Oui. Parce que ce qui compte fondamentalement, c'est les autres qui se rencontrent, se cachent, tentent de se travestir, tentent même de se grimer, puisqu'il y en a un qui va passer par la cheminée, un autre pas. Enfin bon, bref, tout est possible.
Oui, et chez Fédo, et en particulier dans cette pièce, il y a vraiment une folie qui guette, qui gagne, et on s'aperçoit aussi que cette frustration quand même du désir, ça les travaille par en dessous, et ça dit quand même quelque chose d'assez fort.
Oui, ça les travaille par en dessous, comme tu dis, mais d'une certaine façon, parce que au fond, les hommes sont quand même vraiment...
Un peu les dindons de la farce.
Ce sont les dindons de la farce, et ils sont franchement mal placés dans cette histoire-là, parce que au fond, paillardet n'est guère gaillard, comme dit sa femme, et il s'appelle paillardet, il n'est même pas gaillardet. Quant à pingler, ça le prend comme ça, mais une fois qu'il y est, il tombe malade, et il n'attend qu'une seule chose, c'est que sa femme, il appelle sa femme pour qu'elle vienne
à son secours
et qu'il vienne panser ses plaies intérieures. De même, Maxime, on ne peut pas dire que c'est un foudre de guerre.
Et puis Mathieu est bègue.
Mathieu est bègue seulement quand il pleut, c'est-à-dire quand il y a du soleil.
Il parle normalement.
Tout à fait normalement. Il est avocat, il parle tout à fait normalement. Mais alors, quand il pleut, il s'avère qu'à un moment donné, il pleut, en particulier dans le dernier acte, où c'est tout à fait extraordinaire qu'il pleuve, parce qu'il ne peut pas dire ce qui est en jeu, et ce qui permettra à l'ensemble de s'en sortir assez convenablement.
Oui, sans crime passionnel et sans conflit trop
difficile.
bégaiement, difficile à surmonter.
Ce bégaiement qui n'arrive jamais à dire exactement ce qui s'est passé, eh bien, va permettre une solution à l'ensemble du problème. Voilà, alors évidemment, le langage est fondamental dans cette affaire-là. La rapidité aussi est essentielle, puisque tout est hyper rapide, c'est-à-dire on parle vite avec l'autre, ce sont des petites...
Oui, il y a des sortes de punchlines, et c'est ce qui fait aussi l'actualité parfois de la langue de Fedo, parce qu'on a l'impression effectivement que les personnages s'envoient des
petites formules, les unes après les autres, bien connues, oui. Et qui sont franchement toujours acérées, et franchement qui me font rire. Moi, en tout cas, la lecture. Alors, là, au niveau de la mise en scène, ben, on en parlera
peut-être tout à l'heure. On va peut-être écouter une chanson sur un hôtel particulier. C'est une chanson de Gainsbourg, mais dans la version d'Erita Mitsuko.
Vous écoutez Coup de théâtre de la Comédie de Colmar et avec Christine ce matin, nous parlons de l'hôtel du libre-échange de Georges Feydeau, mis en scène par Stanislas Nordet, un spectacle que vous verrez à la Filature de Mulhouse.
Vous pourrez le voir le 11 février à 20h, le jeudi 12 février à 19h. C'est un spectacle qui est réservé aux abonnés de la Comédie de Colmar qui se rendront en bus à la filature de Mulhouse, donc un formidable vaudeville qui va durer 3h05 avec entr'acte, donc un grand moment de rire et de folie, comme nous venons de vous l'expliquer, puisque nous vous avons raconté l'histoire.
Oui, parce que nous avons surtout insisté sur le deuxième acte. C'est Feydeau écrit des comédies en trois actes, c'est surtout le deuxième qui est un peu le centre de tout ce qui se passe. Et peut-être pour mieux indiquer comment Feydeau écrit, juste peut-être vous lire un petit texte qui est de Pierre Murat, Pierre Murat, le grand critique de théâtre bien connu, que vous avez sans doute entendu ici ou là à la radio, qui dit ceci. Feydeau, on le sait, mettait en scène ses propres pièces, mais il le faisait dès l'écriture, debout, marchant de long en large dans son bureau. Aussi ne se contente-t-il pas d'écrire et de laisser les lecteurs imaginer la scène? Non. Il n'écrit pas de la littérature, mais du théâtre et de cette vérité simple, pétrie de modestie, qui ne lui donne d'ailleurs aucun complexe. Il va faire un art nouveau. Pour raconter son histoire, les dialogues ne suffiront plus. Feydeau va plonger ses personnages dans des situations tellement folles, tellement incroyables, que les mouvements du corps deviendront autant de signes de communication de la pensée de l'auteur, autant d'éléments du récit. En fait, Feydeau invente la technique de l'écriture cinématographique. D'ailleurs, fin de citation ici, d'ailleurs Feydeau adorait Charlie Chaplin, qu'il a encore connu jusqu'à un certain point à la fin de sa vie. Et c'est un peu de ça dont il s'agit.
Oui, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du burlesque. Et puis moi je me souviens aussi, quand nous avions travaillé Un fil à la patte, il y a une véritable chorégraphie, il y a vraiment, comme dans les scénarios de films, deux colonnes. Il y a la colonne des déplacements et Feydeau note le nombre de pas qu'il faut faire. Et puis de l'autre côté, il y a le texte. Et en général, on commence à apprendre, comme dans une chorégraphie, les choses lentement. On voit la chorégraphie lentement. Et ensuite, pour la jouer avec la vivacité que Feydeau requiert, il faut accélérer. Et ça donne en fait, effectivement, une chorégraphie absolument folle à la fin.
Oui, alors cette chorégraphie, évidemment, elle est surtout dans le deuxième acte où les portes claquent, on passe, on rentre, on essaye de se cacher, on se montre comme on peut. Les mêmes gens se trouvent dans une même pièce alors qu'ils ne devraient pas s'y retrouver parce que les deux individus qui distribuent les chambres ne se sont pas contactés. Et donc
il y a toute une série de quiproquos qui vont se mettre en place. C'est vrai que ça pose question dans la mise en scène de Stanislas Nordet, puisque en fait il a quand même voulu déjouer un peu les attentes que nous avons de l'hôtel rococo, des intérieurs tels qu'on se les imagine dans Feydeau. Il a vidé quand même le plateau pas mal, mais il y a quelques éléments qui sont importants. Par exemple, il y a toute une série de matelas, matelas qui évoquent évidemment la question de la sexualité, du passage à l'acte.
Oui, et puis de toute façon, ce sont des chambres.
La quantité de matelas quand même est suggestive.
On a un couloir avec une chambre d'un côté et de l'autre. Je ne sais pas si on voit la séparation, mais étant donné qu'à Paillardin, qui doit voir si la chambre, je crois que c'est la 10 ou la 11, si la chambre 10 est hantée, on va à la fois la distribuer à Paillardin, mais aussi à Mathieu et à ses quatre filles. Donc évidemment, elle sera hantée, la chambre, d'une manière ou d'une autre. De l'autre côté, la chambre 11, on entend tout de la chambre 10. Enfin bon, bref. De toute façon, Nordet avait trouvé un système pour donner à voir visuellement ce qu'était cette immense didascalie pour mettre en place le jeu de l'acteur dans cette machinerie. C'était de projeter sur les différentes faces,
les différents murs, sur le plateau,
des murs du plateau, eh bien la didascalie elle-même. Alors c'était le cas déjà dans La Puce à l'oreille, puis ça sera le cas ici aussi. Sans doute il a repris le même stratagème.
Oui, et puis il dit bien aussi qu'il est impossible bien sûr de se passer des fameuses portes, puisqu'il y a des entrées et des sorties en grand nombre. Mais donc la scénographie est quand même partie particulière et assez dépouillée. Dans le premier acte où il est question simplement du cabinet d'architecte ou d'entrepreneur, il y a juste une table d'architecte. Oui. Donc il y a beaucoup moins d'accessoires que dans les représentations qu'on
vous
que l'on a
pas,
du vaudeville.
Vous ne verrez pas, comme toujours dans le vaudeville, la grande maison bourgeoise.
Voilà,
d'une manière ou d'autre. Vous l'imaginerez, de toute façon, c'est toujours possible. Alors comment au fond seront les habits de cette affaire-là? Alors ce qui est assez amusant, c'est que tout se joue évidemment dans le deuxième acte. Dans le deuxième acte, qui est un peu celui de la folie, de la nuit. C'est une nuit folle.
Oui, comme
que
si on était dans une sorte de rêve délirant.
Voilà, que ces gens vont passer, puisqu'ils vont se retrouver les uns les autres, hurler, chanter, enfin tout est possible, puisque les quatre filles
vont... Oui, c'est un spectacle total.
Oui,
hein,
les quatre filles vont chanter, et puis ils auront plein de plumes, c'est-à-dire ils seront emplumés, on veut dire, parce qu'il y a déjà les plumes des coussins, des matelas, mais c'est l'idée que ce sont quasiment des volatiles.
Oui, comme si on était dans une volière plus que dans un hôtel, et c'est Raoul Fernandez, collaborateur de longue date de Stanislas Nordet, qui a créé les costumes et qui a apparaît lui-même
on nomme bien dans ces hôtels un peu particuliers les gens qui y sont des oiseaux de nuit.
Oui.
Alors on a affaire à des sortes d'oiseaux de nuit
dans
ce deuxième
acte. Oui, en même temps, ce sont des plumes l'autruche aussi, qui évoquent le cabaret aussi, et puis faire l'autruche, c'est-à-dire faire semblant de ne pas voir ce qui se passe. Enfin, il y a plein d'analyses possibles de ces plumes qui envahissent le plateau et de costumes qui finalement transforment les personnages en personnages plein de folie,
en volatiles. Bon, on a souvent dit que c'était des volatiles parce que le boulevard avec tous ces bourgeois, c'est comme au fond un lieu où il n'y a plus que des volatiles. On a même souvent présenté la bourgeoisie de l'époque sous la forme de dindons.
Oui, dans les caricatures.
Voilà,
et puis il
voilà,
y a le dindon,
et
voilà,
le dindon
qui est une autre
aussi,
pièce
de Fédot.
Ouais.
Voilà.
Ce
qui est intéressant, c'est que de toute façon, dans cette histoire-là, c'est vraiment les femmes qui mènent le bal dans l'ensemble et qui s'en sortent assez bien. On l'avait déjà dit avant. Alors, en ce qui concerne les costumes, il semblerait qu'on est entre 1900 et 2000. Alors, ça, c'est vraiment, je dirais, large dans cette affaire-là.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements de costumes pour les acteurs aussi, ce qui fait partie de l'idée d'un spectacle total et des effets de surprise qui vont être créés au plateau. Ce qu'il est important de dire aussi, c'est que ces 13 acteurs qui sont au plateau sont pour la plupart des acteurs connus, comme Hélène Alexandridis par exemple. Et puis il y a aussi une jeune actrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Isanis Padonou, que vous avez peut-être pu voir dans le spectacle de Romain Gnegouchev, chef de la compagnie Fugue 31, qui est une chose vraie. Donc c'est une très jolie actrice qui fait partie des quatre sœurs, mais toute la troupe est une troupe extraordinaire et Stanislas Nordet travaille en toute confiance avec des collaborateurs de longue date, comme par exemple aussi son...
Oui, c'est la même équipe.
Son scénographe, qui, hein, Emmanuel
voilà,
Clolus.
C'est la même équipe qui... C'est pour ça qu'on retrouve aussi des éléments identiques. C'est la même équipe en grande partie qui avait travaillé sur La Puce à l'Oreille. Donc en 2005... et qu'on retrouve ici en 2025 pour
voilà. Alors en même temps aussi, le travail sur la langue de Fédot, chez Stanislas Nordet, il y a toujours une attention portée au phrasé et à la langue. Alors peut-être serez-vous un peu surpris, parce qu'apparemment, Nordet a fait travailler la langue de Fédot d'une façon un peu particulière dans sa diction. Nous verrons.
Nous ne savons pas, parce que nous n'avons pas entendu. On en a parlé de ce spectacle qui a été globalement plutôt apprécié, je crois. Mais on connaît nécessairement ce qui se passe avec Fédot en général. C'est-à-dire, on apprécie quand même, parce qu'on rit quand même d'une manière ou d'une autre. Donc, ça manque de toute façon dans le monde dans lequel on est de rire un peu, même si on rit pour des choses qui sont paillardes ou gaillardes.
Voilà. Et d'ailleurs, Nordet, c'est ce qu'il dit, hein, c'est ce qu'il a voulu faire, c'est véritablement en sortant du TNS retrouver une espèce de joie du théâtre qu'il avait connue en montant La Puce à l'Oreille. c'est-à-dire un théâtre de divertissement intelligent, parce que peut-être que effectivement ça donne aussi un petit peu à réfléchir à la société bourgeoise, et il y aura peut-être des échos quand même dans le texte de Feydeau.
De toute façon, avec, ce théâtre-là est un reflet, c'est un miroir.
Oui.
Alors d'un certain type de bourgeoisie, mais bon, à part ça, les questions qui sont soulevées, des rapports entre hommes et femmes, des questions concernant la sexualité, peuvent valoir de tout temps.
Bien sûr, elles
d'une
sont
manière
universelles,
ou d'une autre.
Oui, oui. Et puis il y a vraiment cette idée d'un théâtre de la joie, quoi, de la joie du théâtre, d'un hommage au théâtre.
Eh ben alors, vive le théâtre. À bientôt.